Bonjour, il y a un an, nous faisions déjà une émission pour analyser le traitement médiatique de la canicule de juin 2025. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ? Pas grand-chose. Médias et politiques font toujours autant la promotion de la climatisation comme l'alpha et l'oméga d'une politique d'adaptation au réchauffement climatique. Le seul progrès, c'est qu'il n'y a désormais plus dans les JT d'images du déni face au réchauffement climatique. Désormais, ce sont les morts que l'on commence à recenser. Des enfants morts de chaleur dans des voitures, plus de 50 décès par noyade et les premiers signaux de saturation dans les services d'urgence des hôpitaux avec des morts liés à la canicule. Les chiffres de 2003, ces 15 000 morts sont dans toutes les têtes, 15 000 morts et un excès de mortalité de 5 700 décès attribuables donc à la chaleur de l'été 2025. Alors qui aurait pu prédire ? Les scientifiques, les lanceurs d'alerte climat et les journalistes spécialisés qui depuis des années tirent la sonnette d'alarme d'une planète toujours plus chaude. Et c'est avec eux que nous avons eu envie de faire cette émission pour déconstruire le traitement médiatique de la canicule et pour comprendre pourquoi nous sommes si peu préparé. Yamina Saheb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Laboratoire mondial de sobriété, chercheuse affiliée à Sciences Po Paris, co-autrice du dernier rapport du GIEC, experte des politiques d'atténuation du changement climatique. Merci de votre présence. Thomas Wagner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien consultant en finance, l'un des vulgarisateurs du climat, dit Le Monde, le plus connu. Même le milieu scientifique vous plébiscite et plébiscite surtout votre média indépendant, Bon où vous documentez au quotidien la question justement du réchauffement climatique et précisément de la canicule ces derniers jours. Merci également de votre présence. Et enfin, Alexandre Florentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en sécurité climatique, vous nous direz ce que ça veut dire. Et vous avez travaillé notamment auprès de Jean-Marc Jancovici, que nous voyons beaucoup en ce moment dans les médias justement, et vous avez été conseiller de Paris, où vous avez présidé la mission transpartisane Paris à 50 degrés, et on y reviendra évidemment aussi dans le cours de cette émission. Merci également de votre présence. Alors le 19 juin dernier, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, justement désormais personnage médiatique des crises climatiques, était l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. « Ça va s'arrêter quand ?» lui demande la journaliste qui, quelques secondes plus tard, l'interroge. « Vous n'êtes pas surpris par la canicule ?» Regardez.
On le voit, ces derniers jours, record sur record, 40 degrés atteints hier, on n'est toujours pas à l'été, hein, officiellement. Ça va s'arrêter où ? Ça va monter jusqu'où ?
Ben, ça va continuer à monter. Il n'y a aucune surprise à avoir là-dedans. Enfin, je veux dire, si les gens qui nous regardent sont surpris, pardonnez-moi d'être un peu taquin, c'est que vous avez mal fait votre travail jusqu'à maintenant.
Pourtant, je vous ai beaucoup reçu, donc vous aussi, semble-t-il.
Beaucoup. Non, c'est pas moi qui fais la programmation des médias. C'est tout ce qui est en train de se passer est parfaitement en ligne avec des prévisions qui ont été faites il y a maintenant des décennies. On sait depuis 2 siècles que quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. On sait depuis 1 siècle à peu près de combien il se réchauffe en fonction de la quantité de CO2 qu'on rajoute. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu.
Tout se passe comme prévu. Vous n'êtes absolument pas surpris.
Non, je suis un peu, j'aime pas ce qui se passe.
Vous le subissez comme tout le monde.
Je le subis comme tout le monde, mais j'ai envie de dire tout se passe comme prévu, malheureusement.
Quand vous voyez cette séquence, qu'est-ce que vous dites, Thomas Wagner ?
Il a entièrement raison. J'ai regardé entièrement cette émission. Les questions d'Apolline de Malherbe étaient à l'image de ce qui se passe depuis 10 jours. C'est proche d'être lamentable. Et elle a encore axé la discussion très très rapidement sur la canicule. Il y a vraiment une séquence où elle dit « Mais Jean-Marc Jancovici, vous êtes pour ou contre la canicule ?» Et vraiment, ça pourrait résumer les débats qu'on a depuis 2 semaines à peu près. C'était déjà la même chose lors de la première canicule en mai, une canicule historique. Et là, à nouveau, vraiment, ça, tous les débats, et encore hier, ça a tourné autour de la canicule.
La clim, pardon.
Wow.
Oui. Pour ou contre la clim.
On est fatigué.
Alors oui, il y a des conditions et très peu de sommeil, mais voilà, merci de l'avoir rattrapé, Alexandre.
Moi, j'attendais qu'il finisse pour voir où est-ce qu'il voulait en venir, mais là, c'est ça, les climatisations.
C'est absolument honteux, il parle de la clim, enfin de la canicule, c'est. Donc effectivement, tous les débats ont tourné autour de la clim, waouh. Et vraiment, ça a été, il faut vraiment déconstruire ça et se demander d'où ça vient, qui est-ce qui a apporté ce sujet-là. Et je pense que ça remonte à l'été 2025 où il y a eu encore une fois une canicule et Marine Le Pen a tout de suite balancé le sujet et tout le monde a fini par courir après le discours du RN là-dessus. Et je pense que c'est parti de là. Et comme c'est une solution technique, c'est simple et les Verts et la gauche, de façon générale, n'a pas été très bonne pour répondre en disant non, la clim, c'est n'importe quoi, etc. Il y a vraiment des tweets qu'on peut ressortir de Marine Tondelier là-dessus.
Oui. On y reviendra sur la climatisation parce que c'est évidemment quelque chose à déconstruire en soi, mais quand vous dites lamentable, précisément, c'est quoi qu'il est ?
C'est les questions, le niveau des questions, le traitement médiatique de BFM et d'Apolline de Malherbe qui vient encore ce matin d'interroger un scientifique en posant toujours les mêmes questions. On est toujours au niveau du constat. On est en 2026. Le constat devrait être connu et vraiment indiscutable. Ça se réchauffe. On sait que la responsabilité est humaine. Tout ça est indiscutable. À la première canicule, ça discutait encore de ça. Là, Apolline de Malherbe continue à reposer des évidences. « Ah, mais vous êtes surpris, etc. » Personne ne devrait être surpris. Il a entièrement raison en disant que c'est prévu. Il y a des rapports scientifiques qui le disent depuis des décennies. Il a raison. Le dernier est très clair et validé par les gouvernements. Ça, c'est très important et je pense qu'il faut y revenir parce que le gouvernement français, mais tous les gouvernements du monde, valident le résumé pour les décideurs. Yamina, ici, autrice du GIEC, le sait très bien. Donc, le gouvernement sait. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à parler de la responsabilité. On parlera probablement d'obstruction climatique plus tard, mais il faut commencer à parler de responsabilité et savoir pourquoi on en est là et pourquoi ça n'avance pas.
C'est y compris ça. La responsabilité médiatique.
Bien sûr, bien sûr.
Yamina Sey.
Eh ben moi, je trouve que la journaliste est fidèle à elle-même, quoi. Le niveau d'ignorance des journalistes est incroyable.
Parce qu'en plus, vous les côtoyez, entre guillemets, alors pas uniquement sur les plateaux télé, mais je sais que vous formez certains journalistes, vous avez formé en tout cas des journalistes à la question du réchauffement climatique. Est-ce que c'est à l'image des journalistes que vous avez en face de vous quand vous devez les éduquer ?
Alors, les formations auxquelles j'ai participé, c'était pour France Télévisions, donc ce n'est pas les chaînes privées. Mais moi, je me souviens d'une formation où j'avais quelques journalistes qui me disaient bon, je ne remets pas en question, mais je vais juste faire le diable. Mais en fait, ils étaient le diable avec leurs questions.
Ça veut dire quoi ?
Qui remettaient en question, en fait, le lien entre les activités humaines et le réchauffement planétaire, nanana. Oui, mais ça, c'est contredit par. Mais quelle publication ? Et donc, c'est vraiment à l'image du niveau de compréhension de la crise climatique par les journalistes, par les médias, d'une façon générale. Il y a très, très, très peu de journalistes qui vont à la source et qui vont lire par eux-mêmes, qui viennent parfois, qui viennent nous apporter des publications. « Ah, j'ai lu ici, est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que cela veut dire ceci ou cela ?» Et donc, ils sont plutôt dans la certitude. C'est ça, le plus choquant, c'est cette certitude, parce qu'ils sont à la télé, etc., qu'ils ont compris, alors qu'en vérité, ils n'ont rien compris. Ils sont plutôt dans le déni et la remise en question permanente. Donc moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'elle pose ce type de questions. Et je ne suis pas du tout étonnée qu'on se retrouve en 2026 encore avec des journalistes qui sont dans le déni total.
Est-ce que ça a du sens, Alexandre Florentin, de toujours mettre en avant, là on l'a entendu avec cette interview-là, mais ça a été le cas dans plein d'interviews ces derniers jours, la notion de record ? Record battu. Tous les jours, on a un nouveau record battu s'agissant des températures en temps caniculaire.
Ben, c'est à la fois vrai, scientifiquement, à un moment donné, voilà, on bat un record parce qu'on a dépassé telle température qu'on n'avait jamais eu au mois de mai, au mois de juin, où on peut toujours aller trouver un record. Ah là, c'est le nombre de jours où il a fait plus de 40 degrés à Paris, etc., etc. Le problème, c'est que le jour où il n'y a pas de record, du coup, on fait quoi ? Alors que si, par exemple, là, dans les juste cet été, en fait, on revit la même séquence en termes de température de nouveau au mois de juillet, de nouveau au mois d'août, on va battre aucun record. Mais par contre, cette répétition-là, elle va énormément fatiguer les corps. Ça va être un problème pour tout le vivant, végétal, animal. Ça va être un problème pour les infrastructures parce qu'elles vont casser plus vite, parce que là, on les met énormément sous pression. Ça va être des problèmes de santé mentale parce que les gens vont aussi commencer à se dire « Mais en fait, ça y est, c'est ça maintenant le monde. » Donc, il y a un petit danger avec ce cadrage-là. Mais pour revenir aux questions que vous posiez, moi j'ai quand même noté une différence que je n'avais pas remarquée sur les épisodes précédents, c'est que…
– En termes de traitement médiatique ?–
En termes de traitement médiatique, en fait en termes de coulisses, quand j'étais invité sur les deux dernières canicules, c'est que les journalistes qui sont très majoritairement basés à Paris ont souffert. Leurs enfants ont souffert et c'est aussi le cas de Madame de Malherbe. À un moment où j'étais en plateau, elle a mentionné un problème qu'elle avait eu avec son fils qui est au collège, si je ne me trompe pas. Et donc là, je crois qu'il y a aussi une série de personnes qui étaient dans une forme de déni, c'est le journalisme, mais c'est aussi plein d'autres typologies de professions et tout, qui là se disent, se rendent compte, et en fait, ils se rendent compte qu'eux aussi vont être affectés, ça ne va pas être juste des gens dans d'autres pays ou des gens dans le futur. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux sont surpris. Et du coup, ils posent la question aux autres de « mais vous n'êtes pas surpris ?» Mmh. Ah ben non, les amis, en fait, les gens qui ont bossé sur le sujet, ils ne sont pas surpris. Ils sont surpris que vous soyez surpris. Donc en fait, là, elle parle d'elle. Elle parle de son propre traitement médiatique et de sa propre compréhension des choses avec un mécanisme très bien connu qui est que aussi face à une information qui peut faire très peur, on se protège avec du déni.
Et pourtant, on va voir quelques images d'une fiction que vous avez coécrit en 2022, qui raconte l'histoire d'une canicule en juin 2026. En 2022, nous avions imaginé une canicule majeure à Paris. Vous écrivez, toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. Il y a plusieurs images comme ça qu'on va voir défiler. Voilà, donc par exemple, Météo France précise dans un communiqué les températures attendues pour les prochains jours à Paris. 31 degrés dépassés en fin de semaine, entre 36 et 40 degrés attendus pour la fête de la musique dimanche. On a vraiment l'impression que c'est ce qu'on a vécu ces derniers jours. La une du Parisien, telle que vous l'avez fictionnée en 2022, canicule, Paris étouffe. La barre des 40 degrés a été franchie pour la première fois, un record, un mois de juin. Et on voit juste en dessous la vraie une du Parisien le 21 juin dernier.
Oui, pour que ce soit bien clair, le texte en haut, c'est la fiction. Et c'est l'image en bas, c'est ce qu'on a vécu.
C'est ça.
En vrai, voilà.
Et donc, en fait, ce que vous aviez écrit en 2022, c'est quasiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, notamment avec une partie de la fiction qui concerne les écoles. Nous tombons par hasard sur une maîtresse d'école qui accepte de témoigner anonymement. J'ai jeté l'éponge, je ne dormais pas la nuit, je mettais 30 minutes de plus à venir au travail à cause des ralentissements sur le RER. Et en classe, c'était l'horreur. J'adore mes petits, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'acheter des brumisateurs et une clim, mais il n'y en a plus nulle part. Enfin, c'est exactement ce que certains enseignants ont vécu ces derniers jours à Paris.
Oui, donc c'est pas que j'avais pas de boule de cristal, j'avais pas.
C'est ce que mon fils pense. Hein.
Oui, c'est ce que
tu disais. Parce que j'ai lu ça à mon fils et il m'a dit il faut me le présenter. Je lui ai dit tu l'as déjà rencontré, mais il m'a dit c'est quoi, qu'est-ce qui va se produire après.
Donc j'ai pas
il a besoin de la suite.
Voilà, hein. Dis-lui de regarder la résumé... l'image du coup.
J'ai pas le résultat du loto, je suis désolé. En fait, ce qu'on a fait, c'est que un peu avant d'écrire cette fiction, donc j'étais élu à Paris à cette époque-là. J'ai fait un travail d'enquête, de Génération Écologie dans le groupe écologiste. J'ai fait un travail d'enquête. En fait, sur le 13e arrondissement, j'ai demandé à peu près une quarantaine de personnes qui font la ville, donc une commerçante, quelqu'un qui travaille dans tel service de la ville, un pompier, etc., etc. Et en gros, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient vécu pendant les canicules précédentes et comment ils se préparaient pour les suivantes. Mais grâce à la base d'informations sur comment ils avaient vécu les canicules précédentes, on avait déjà accès à des points de bascule, à des choses qui étaient des micro-signaux qui, à l'époque, n'étaient pas trop dans les médias parce qu'il y avait plutôt un traitement médiatique de « Ah tiens, il fait chaud un peu plus tôt, génial, on va aller à la plage, etc. » En 2022, c'était quand même beaucoup ça.
Tout à fait.
Et alors que moi, en menant l'enquête, on voyait déjà qu'il y avait des gens qui souffraient, des systèmes qui étaient pas très loin de rupture ou de difficulté. Par exemple, on nous a raconté que un couvreur était intervenu sur un toit parce que quelqu'un y avait installé un arrosage automatique pour refroidir son toit en zinc pour que ça soit plus frais chez lui. Et il intervenait parce que ça avait créé une fuite. Bon, bah, c'est typiquement ce genre d'information. Après, c'est là où on bascule vers la fiction, c'est qu'on prend ce genre d'information, on tire le fil, on se dit, bah, tiens, si en fait ça se généralisait, qu'est-ce qui se passerait ? Et donc, en 2022, il y avait déjà des classes dans lesquelles les profs disaient « En fait, il commence à faire vachement chaud j'ai acheté un ventilateur. » Mais après, on se dit « Mais si tout le monde fait ça au même moment, sans anticipation, il va y avoir des ruptures de stock. » Donc, en fait, c'était assez facile d'écrire cette canicule. Alors là, en l'occurrence, elle commençait avec la fête de la musique et on avait pris les vraies dates. C'est pour ça qu'on dit dimanche, fête de la musique. C'est pour ça qu'on avait regardé le vrai calendrier de 2026 et on l'avait étiré jusqu'au 14 juillet. Et ça se termine sur un 14 juillet qui est annulé parce que la nation, en fait, est épuisée. Et que en venant jusqu'ici, je suis passé à pied place de la Concorde avec les installations. Du coup, ça m'a fait penser à ça.
Sauf que aujourd'hui, y compris jusqu'à Emmanuel Macron, on nous explique que nous sommes adaptés. Que nous vivons une forme d'adaptation. C'est vraiment les propos du président de la République, y compris aussi d'autres personnalités politiques, qui nous expliquent que donc nous sommes tout à fait adaptés au réchauffement climatique. Regardez.
on a doublé les financements, on a fait un plan de rénovation des écoles, on a mis en place un plan de climatisation dans les transports publics. Maintenant, ceux qui nous disent que d'un coup de baguette magique, ils transforment toutes les écoles d'un coup en 5 ans, ce sont des menteurs. Nous sommes dans une transformation extrêmement profonde. La France est considérée par rapport à ça comme plutôt en avance sur l'adaptation au changement climatique.
Nous sommes de très loin.
Mais on part de très loin.
L'adaptation, c'est une politique de long terme. Il y a énormément de choses à faire. Il faut, par exemple, revoir tous nos réseaux urbains. Il faut revoir nos réseaux d'eau. Oui. Il faut revoir nos réseaux SNCF. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on va faire ni en 5 ans, ni en 10 ans. Mais il faut les inscrire dans la durée.
L'effort d'adaptation n'est pas le seul fait de l'État. C'est aussi le fait des collectivités locales, le Premier ministre l'a rappelé, des entreprises et de nos compatriotes eux-mêmes. Et donc, évidemment qu'il faut poursuivre cet effort d'adaptation, mais il faut aussi le faire dans un cadre qui est compatible avec le redressement de nos finances publiques.
Ça fait maintenant plusieurs années que nous avons accompagné une transition de nos habitats, de nos bâtiments publics, de nos infrastructures publiques, qui correspond à l'adaptation. Et donc, il y a un gros travail qui a été fait. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, c'est-à-dire un pic caniculaire qui dure aussi longtemps et qui est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières.
Comment on peut dire ça, Yamina Saeb ?
Il faut qu'on soit ignorant, je pense. Par exemple, quand on parle des bâtiments, la rénovation des bâtiments. Dans la rénovation des bâtiments, ce que l'on fait, c'est qu'on rénove les bâtiments pour lutter contre les déperditions l'hiver. Quand on fait les calculs et les isolants qu'on a, etc., c'est uniquement pour l'hiver. Il n'y a rien dans les projets de rénovation du bâtiment, à ma connaissance, pour les chaleurs. Sachant que, d'un point de vue climatique, on sait, les projections montrent qu'on va aller vers une France de plus en plus chaude. Et donc, moi, je me pose toujours la question, depuis longtemps d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui rénover des bâtiments pour un climat qui n'existe plus, qui n'existera plus ? Et donc, ils mettent de l'argent public qui n'est pas suffisant, etc., mais sans aller dans le... Mais c'est juste que c'est mal rénové. Donc, il y a des écoles, moi, il y a des parents qui m'ont écrit, il y a des écoles qui ont été rénovées, et les enfants suffoquent. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on rénove juste pour l'hiver ? Ça veut dire qu'on crée une serre, ça veut dire qu'on met des isolants de façon à ce que la chaleur ne sorte pas du bâtiment. Et là, quand il y a les grandes chaleurs pendant plusieurs jours, ben, la chaleur, elle rentre, puis elle est là, elle reste là. Et donc, les enfants étouffent. Et donc, se pose une réelle question de « qu'avez-vous fait ?» Et je pense qu'ils n'ont pas compris le peu qu'ils ont fait, c'est mal fait. Après, quand la ministre nous dit que ça prend du temps, oui, ça prend du temps, mais on a eu 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. On a eu les 2, c'est la période charnière. Cette période-là, lorsque vous regardez dans la littérature, tout le monde disait que c'était la période charnière. Il faut, avant 2030, qu'on se prépare à ce qui va nous arriver. Eh bien, on a perdu 10 ans. On a perdu 10 ans. Et les 10 années qu'on a perdues, maintenant, pour les rattraper, il faut aller courir derrière. Et pour les rattraper, ça veut dire que si on a une autre vague de chaleur qui vient dans les jours ou les mois à venir, on va avoir de plus en plus de morts, de plus en plus de dégâts. Et rien n'est préparé.
Mais je ne sais pas comment on peut rattraper Thomas Wagner, puisqu'on nous dit qu'on est déjà adapté.
Là, en voyant les séquences une à une, il faut vraiment partir du... Bon, gouverner, c'est prévoir. Il faut vraiment partir du principe que ces gens et ce gouvernement ment depuis 9 ans sur le climat. Ça fait 6 ans que je suis sur Bon Pot, toutes les déclarations que je commente et analyse. Il faut vraiment partir du principe qu'ils mentent. Donc là, il vient de mentir. Mathieu Lefebvre a menti. Il a déclaré le 22 juin de mémoire en disant que la France était prête depuis 9 ans. C'est complètement faux. Ce qu'ont fait ces gens-là, c'est baisser les budgets, y compris l'adaptation et du fonds vert. Donc ça, c'est une chose qui devrait être rappelée. Et là, il y a vraiment un cadrage, et on est en train de parler d'adaptation. Mais avant l'adaptation, il y a l'atténuation, donc la baisse des émissions. Il faut rappeler que ce gouvernement ne remplit pas ses objectifs climatiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat. Ce sont des faits, ce n'est pas une posture militante, etc. Donc en fait, non seulement ils ne font pas le job, mais en plus ils vont sur les plateaux télé sans être pris par les journalistes en disant « on a fait le job, on est les meilleurs et on n'est pas responsables ». Parce que la petite musique…
– Tu as vu la journaliste qu'on a vue tout à l'heure, elle ne peut pas reprendre un débat comme ça, elle ne peut pas reprendre un politique qui dit n'importe quoi. Parce qu'elle-même, elle est dans le déni, l'incompréhension, enfin,
Il est certain qu'il faut questionner le niveau des journalistes sur le sujet, mais ce n'est pas que ça, je pense que certains savent et qui s'en foutent. C'est vraiment l'un ou l'autre. En fait, moi je veux bien entendre d'autres possibilités, mais mais soit vous êtes mauvais, soit vous êtes complice de ça. Et en ne faisant pas votre travail, ni en ne posant pas les bonnes questions, vous êtes aussi responsable. Je parle bien des journalistes, de façon structurelle d'ailleurs. Certains font le boulot, mais c'est vraiment minime comparé à l'ensemble des chaînes. Vraiment, je trouve ça inadmissible. Je n'avais pas vu la séquence d'Emmanuel Macron où il vient encore de dire qu'ils font le job. Ça me met... Voilà. Il faut vraiment... Enfin, c'est un mensonge.
Alexandre Florentin, je me suis quand même demandé, je me suis posé la question de l'opportunité d'utiliser le mot adaptation dans ce contexte-là. Est-ce que vous considérez que ce mot est adéquat ?
Pour le grand public, moi, je ne l'utilise plus.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, déjà, quand on dit le mot adaptation, les gens, ils ne font pas forcément lien avec le climat. C'est un mot qui est utilisé dans plein de contextes différents. Si vous le tapez sur Internet, vous allez plutôt tomber sur des questions d'adaptation, par exemple, d'une pièce, au fait que quelqu'un avec un handicap puisse y vivre. Donc, en fait, c'est utilisé dans plein de champs différents. Moi, j'utilise le terme de sécurité climatique parce que, le terme est bien expliqué hein, dans la littérature scientifique. On parle d'adaptation transformative pour dire que pour cette question de comment est-ce qu'on va aussi vivre avec un climat qui change de manière croissante, ça ne va pas demander les mêmes ajustements si on doit juste se préparer au retour du type de canicule qu'on a eu là ou si on doit se préparer à celle d'après. On ne prend pas les mêmes décisions, c'est encore plus simple sur la montée des eaux où il faut se dire, oui, on ne va pas tout de suite faire 40 km dans les terres, peut-être qu'il y a des ajustements au début avant de faire ça. Bon, mais là, il y a quand même un double problème dans la séquence qu'on a vue, c'est que déjà, en fait, on a quand même un gouvernement qui, à part faire de la communication pour se déresponsabiliser, ils font rien d'autre. Il n'y a pas d'action, là. Est-ce que vous avez vu la moindre action ? Moi, j'ai rien vu. J'ai juste vu des déclarations qui sont soit du recyclage de trucs qui étaient déjà prévus, soit du réemballage d'un truc vide. Là, on nous dit on a augmenté, je sais pas quoi. En fait, le fond vert, il est où ? On nous parlait il y a encore pas si longtemps, je sais même pas où on en est là, de détricotage de à peu près toutes les agences environnementales, et on nous dit on fait tout, on a tout fait. Ensuite, il y a un point qui est, je trouve, plus intéressant, qui est la question de la temporalité. Parce que je crois qu'il y a deux ministres de suite qui ont dit quelque chose sur le fait qu'il y a une question de timing. Quand bien même on aurait un gouvernement très allant là-dessus, on a quand même un problème de timing. Donc, il se cache derrière. Mais c'est un vrai sujet. Et par rapport à ce que tu as dit sur le fait qu'il va falloir rattraper notre retard, et vous avez tout de suite dit, mais est-ce que c'est possible ? Moi, je ne crois pas que ce soit possible de rattraper ce retard. Il faut changer de stratégie. On aurait dû baisser les émissions à partir des années 70. On aurait dû préparer l'adaptation à partir des années 2000. Et du coup, là, on se retrouve avec un troisième volet qui souffre, c'est la gestion de crise. Et on ne pourra pas juste... par exemple, si on prend juste le cas des écoles, moi, quand j'entends... Et cela, ce n'est pas propre au gouvernement. J'ai entendu aussi à peu près tout le spectre politique dire « Ah, mais il faut rénover les écoles ». Mais en fait, les gens qui sont sur le terrain et qui savent le faire, ils vous disent « Bah, en fait, que ce soit à Paris ou à toute la France, j'ai vu deux évaluations, il faut 20-30 ans ». Donc, ça veut dire que ce n'est pas la bonne stratégie. On ne peut pas se baser uniquement sur notre capacité à rénover les écoles. Donc, ça veut dire que là, il y a des choses à faire sur la fin de la saison, enfin, ou sur cet été, puisque une fois que l'école ferme, ça devient quand même des centres aérés. Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine et qu'est-ce qui se passe sur le long terme ? On va devoir articuler l'urgence, le court terme et le long terme. Et donc, typiquement, juste pour illustrer, à court terme, oui, pour l'année prochaine, il faut qu'on travaille des protocoles d'accueil des enfants dans d'autres lieux que l'école pour qu'ils puissent avoir une continuité d'activité ou au moins que ça, on ne touche pas à la santé des enfants parce que on a des écoles de Schrödinger.
Ils sont où ces lieux ?
Bah, ça peut être toutes les entreprises, elles sont, les bureaux d'entreprise, ils sont climatisés. Tu as plein de bâtiments patrimoniaux comme les églises qui sont frais. Les musées, en tout cas à Paris, ils sont à peu près tous les musées de France, ils sont climatisés pour des questions de conservation des œuvres. On pourrait avoir une politique culturelle.
Les églises.
Voilà. Donc on a des lieux qui existent. Ça ne solutionnera pas tout parce qu'on n'est pas assez près, c'est clair.
Oui, parce que là, on est en train d'entamer aussi le droit à l'école des enfants. Parce qu'il y a quand
mais
même
il est entamé. Il est entamé.
Oui. Sur la question de l'adaptation, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus.
Oui, alors pour moi, les gens qui parlent de l'adaptation tout le temps, c'est des gens qui ne... ça fait partie de la fuite en avant, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'adaptation si on continue à émettre comme on fait aujourd'hui. Le cas de la France, on a calculé quand est-ce que la France aurait dû être zéro carbone, étant donné, parce que le changement climatique, il n'est pas lié uniquement, il n'est pas causé par nos émissions d'aujourd'hui seulement, il est causé par l'accumulation des émissions depuis le début de l'industrialisation. Ben, la France aurait dû être zéro carbone en 96. Donc, quand on a une trajectoire pour arriver à neutralité carbone qui est différente du zéro carbone, parce que la neutralité carbone, c'est la continuation des énergies fossiles. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et moi, ça me gêne beaucoup que certaines institutions suivent la trajectoire de la neutralité carbone, acceptent le concept. Parce que le concept veut dire, la neutralité carbone, ça veut dire que ce qu'on émet sera équivalent à ce qu'on va mettre dans le sol.
Et donc le concept aussi d'adaptation, finalement, il accepte ça.
Exactement. Et donc en fait, on est dans l'acceptation de choses que la nature, qui ne vont pas du point de vue de la nature. Et donc quand on a une trajectoire pour être neutre en carbone en 2050, alors qu'on aurait dû être zéro en 96, ben moi je ne sais pas où est-ce qu'ils vont mettre les émissions. Quoi. Enfin, ça veut dire qu'on ne fait rien. Et à côté de ça, parce qu'on ne fait rien, le gros risque qu'il y a avec le débat sur l'adaptation, ben tout le monde ne parle que de ça, et donc on oublie qu'on ne pourra pas s'adapter avec la continuité des émissions, on aura de plus en plus de vagues de chaleur, etc. Et il nous sera impossible de nous adapter. C'est ça qu'il faut dire aux citoyens. Enfin, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas s'adapter.
C'est clair.
Oui, juste pour compléter ce que dit Yamina, dans le deuxième volet du dernier rapport du GIEC, c'est donc sur l'adaptation et ça parle des limites dures à l'adaptation. Là, en gros, on approche un réchauffement planétaire de 1,5 degré qui va arriver autour des années 2030. Et on sait qu'entre 1,5 et 2 degrés, il y a déjà des limites dures à l'adaptation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, là, je vis dans une fournaise à la maison, typiquement, où je ne peux plus dormir, etc., à déjà 40 degrés à Paris. Donc je pense que si on tape 45, enfin, en gros, je ne peux pas être dans l'appart, sinon je ne serais même pas sur ce plateau. Il faut prendre en compte ces limites dures à l'adaptation et elles ne sont jamais évoquées. Il y a une petite musique, mais ça fait 5 ans, 10 ans, après, quand on regarde un peu le traitement médiatique, de dire « on va s'adapter ». Les politiques ont toujours dit « on va s'adapter ». J'en ai fait même un chapitre de mon livre sorti en 2022 sur le sujet. En fait, c'est faux. On ne va pas s'adapter, et pas autant que ça. Donc, il y aura des limites dures. Et si on ne s'attaque pas aussi à l'atténuation, et on focalise uniquement sur l'adaptation, parce que ça, enfin, là, on pourrait rentrer dans les détails, mais les climato-sceptiques ont disparu. C'est vrai qu'il y a eu un petit changement médiatique, en revanche, versus la première canicule. Là, les climato-sceptiques ont commencé à changer leur discours et à dire « bon, de toute façon, il faut gérer l'adaptation et la clim ». Les mêmes personnes, vraiment les mêmes personnes sur le réseau qui étaient climato-sceptiques, ont commencé à déverper de la clim.
Et notamment l'extrême droite.
Ouais. Bien sûr, rapidement. Parce que, en fait, sur l'adaptation, ce n'est pas que la question des limites de l'adaptation. C'est que le corps humain ne peut pas, ne pourra pas, le corps humain et tout le vivant dans son ensemble ne pourra pas vivre dans des températures qui vont à un niveau de température très élevé pendant longtemps. Et dans notre cas, nous, en Europe, non seulement nos corps et le vivant ne pourra pas survivre à ça, mais nos infrastructures vont craquer. Tout est en train de craquer déjà. Là, aujourd'hui, il me semble qu'EDF a annoncé que 10% de sa production voilà, va être fermée, je crois, aujourd'hui. Et c'est pas une canicule très longue, celle-là. Nous, on a l'impression que c'est énorme. Mais c'est pas super long, ça, par rapport à ce qui se vit déjà dans d'autres pays. Et donc, du coup, il n'y a rien du tout. Alors, quand j'entends qu'on s'adapte depuis longtemps, je suis sans voix.
Justement, Thomas Wagner, vous évoquez la question de la climatisation. C'est un des sujets les plus mis en avant, médiatiquement parlant, depuis le début de la canicule, devenu même une obsession médiatique, au point d'ailleurs, comme le raconte notre journaliste Pauline Bock, que certaines télévisions comme TF1, BFM ou CNews en font la promotion presque commerciale, ou que ces mêmes médias ne cessent de demander aux politiques invités pour ou contre la clim et pas pour ou contre la canicule. Regardez.
Alors, on l'a compris, hein, la question n'est plus tellement de savoir s'il faut de la climatisation ou pas, d'autant qu'elle existe depuis des décennies dans d'autres pays où elle a été un facteur de bouleversement économique.
C'est vrai, vous savez, quand on lui demandait comment s'expliquait le miracle économique de Singapour, Lee Kuan Yew, c'était le premier ministre de cette ville-État du sud-est asiatique, répondait d'un mot: la climatisation.
La question des climatiseurs est une question politique. C'est une fuite en avant. Une fuite en avant.
Oui, je suis favorable à la climatisation. Oui, je suis favorable à équiper tous les établissements publics. Oui, je suis favorable à ce qu'on permette aux particuliers de le développer dans les pièces où ils vivent.
Mais la climatisation va devenir indispensable dans certains bâtiments, mais faute d'avoir anticipé, et la climatisation reste une maladaptation, c'est-à-dire que c'est une augmentation de notre dépendance à l'énergie, c'est une manière de ne pas faire des travaux structurels pour isoler les bâtiments.
Je viens vous dire que si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation, en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles.
Il ne faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bon, ça ne m'étonne pas, il n'y connaît rien.
Aujourd'hui, la climatisation est de droite, demain elle sera d'extrême droite, et après-demain, fasciste, j'imagine. La climatisation est une des réponses au réchauffement climatique. Ce n'est pas la seule, sans doute, mais convenons qu'elle est évidente à l'hôpital, à l'école, dans les transports en commun ou au travail.
Voilà, et au point même où un scientifique, un universitaire, qui a également été rédacteur du GIEC, François Gemène, lui aussi dit que la climatisation, c'est bien. Regardez.
Est-ce qu'il faut qu'on climatise toute la France, notamment je pense aux logements sociaux, où les gens sont dans des écuves thermiques, vivent à 35, 33 degrés Celsius toute la journée. Est-ce qu'il faut climatiser la France ?
Oui.
Oui.
C'est-à-dire pas forcément toute la France, pas forcément toutes les pièces, mais il y a une vraie question sociale derrière ça. C'est-à-dire que Renaud parlait des gens qui quittent Lyon au mois d'août, c'est les gens qui ont les moyens de partir en vacances. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de partir, qui sont coincés dans leurs appartements, qui sont souvent plus petits, moins bien isolés, et donc c'est là que la mortalité est la plus forte, c'est là que les problèmes de santé sont les plus forts, c'est là que les problèmes de violence domestique, intrafamiliale sont les plus forts, donc il y a un grand enjeu social derrière ça, avec des logements.
Lyon, énormément de cités, pardon, où les gens n'ont pas de revenus, beaucoup d'enfants,
j'en pas
c'est
de
l'enfer.
Réponse.
Mais oui,
j'en reviens pas de votre réponse, me disait un type du GIEC.
Il va dire,
non, je suis contre la clim.
Il faut faire évoluer le débat sur la clim. Parfois, on a l'impression qu'il y a une sorte de gens qui sont arc-boutés sur des positions idéologiques et qui disent la clim, c'est une solution, donc c'est mal. Alors on ne va pas faire de la clim partout. Il y a un vrai sujet sur les rejets locaux de chaleur qui peuvent effectivement réchauffer la température en ville, et c'est un vrai sujet. Mais par contre, il faut rappeler que l'énergie et que l'électricité est décarbonée en France, et donc la consommation d'électricité en France, c'est pas un problème pour le climat. Sur la question des rejets des gaz fluorés qui sont utilisés dans la clim, qui étaient également néfastes pour le climat, ils ont été interdits par la Commission européenne depuis 2024. Merci l'Europe pour ça. Et donc la clim aujourd'hui ne pose pas de problème en France pour le climat. Par contre, à l'échelle mondiale, c'est un énorme problème. On annonce 5 milliards de climatiseurs à l'horizon 2050. Il y a plein de pays où l'électricité n'est pas du tout décarbonée. Et donc, plus vous allez mettre des climatiseurs dans le monde, plus ça va renforcer le problème.
Je ne sais pas comment on fait pour que le public puisse comprendre où est-ce qu'il faut aller, parce qu'en fait, on entend tout et n'importe quoi. Certains disent que ce n'est pas bien, d'autres que c'est bien. Et quand on a un scientifique comme François Gemène à la télé qui nous explique que c'est une bonne chose, comment on fait pour avoir une position à la fois réaliste et scientifique sur la question de la climatisation, Thomas Wagner ?
Deux choses. Il faudra déjà que les journalistes rappellent que François Gemène a été rémunéré par un groupe du CAC 40 qui est Saint-Gobain pour aller faire la pub de la climatisation à Dubaï, à Singapour, etc., etc. Donc en fait, ce n'est pas neutre son positionnement, il faut déjà le rappeler, il est payé pour. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Ensuite, sur le traitement médiatique de la climatisation, j'allais refaire la même bêtise, on devrait en parler, s'il y a une heure d'émission, on devrait en parler deux minutes. Parce qu'il y a un consensus en fait parmi les politiques. Il n'y a pas de... Personne n'est contre la climatisation, y compris la gauche, LFI, les Verts, etc. Ils veulent juste ne pas la généraliser. En revanche, tout le monde est d'accord pour les écoles. C'est un consensus, là. Pour les écoles, pour les hôpitaux, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, ça ne devrait pas dépasser deux minutes sur une heure. Si ça le dépasse, comme j'ai regardé C'est à vous cette semaine, on en a encore parlé pendant 30 minutes. Gemène était encore là, d'ailleurs, à faire son VRP de la clim. Pendant une heure, on doit en parler 2-3 minutes. Et parler ensuite peut-être des aspects sociaux et de la justice sociale, etc. Du coût de la climatisation, etc. et des rejets en ville. On parlait des îlots de chaleur urbains. Il y a une étude qui a dit que c'était entre plus 0,5 et 2 degrés en ville. Ça peut monter. L'auteur lui-même a communiqué parce que son étude était récupérée partout en disant c'est seulement 2 degrés. Mais en fait, il s'avère que ça peut monter jusqu'à plus 8 degrés déjà en ville. C'est factuel. Et deux, en fait, la surmortalité augmente en ville de 100% tous les 2 degrés. Ça veut dire qu'il y a 2 degrés en plus, il y a plus 100% de risque de surmortalité. Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable. Il faut arrêter de dire c'est rien parce qu'il y a des morts de l'autre côté. Mais ces gens-là, là, sur le plateau, 100%. Il n'y en a pas un qui vit sans climatisation. Parce que moi, je sais, là, en l'occurrence, je sais ce que c'est de vivre sans clim. T'es pas là à faire le malin et à discuter autour de la clim. C'est impossible.
Pourquoi ça prend autant de place, Alexandre Florentin ?
Parce que ça permet d'éviter de se poser les bonnes questions sur nos modes de vie. Ça permet d'éviter la question difficile du fait qu'on ne pourra pas s'adapter à tout et qu'on ne pourra pas tout adapter et qu'il va falloir faire des choix drastiques et se concentrer sur l'essentiel. Et
c'est facile, quoi. C'est la solution facile.
Oui, c'est la solution facile. C'est aussi une manière de remplir le débat avec un point un peu annexe. Un peu comme le débat nucléaire versus renouvelable. En fait, c'est les mêmes mécaniques, c'est à peu près les mêmes mécaniques en plateau, c'est parfois les mêmes personnes qui viennent défendre ces positions-là. Alors qu'effectivement, en fait, il y a un consensus. Enfin, c'est là où la position de M. Gémen, moi je suis assez d'accord, c'est juste qu'elle est incomplète. Parce que. Vous avez fait un super travail là-dessus chez Bonpote pour montrer que la clim, en fait, c'est un bout de la solution.
Le dernier
oui,
c'est important.
Oui, mais alors c'est là où je crois qu'on ne va pas être d'accord sur quelque chose.
Allez-y, finissez Alexandre et ensuite Yamina.
Parce que tout à l'heure, sur ta dernière prise de position, en fait, je pense qu'il faut faire très attention à... Et je pense que c'est pour ça aussi que le RN devient audible sur ces questions. C'est qu'en fait, là, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Ils ont besoin d'entendre aussi des solutions rapides. Oui, c'est le dernier bout, mais en fait, ça va arriver en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux avoir un discours qui dit « Ok, pour la clim dans les écoles, mais en même temps, il faut travailler l'aération nocturne et les protections solaires et les brasseurs d'air ». Parce qu'en plus, comme ça, vous allez beaucoup moins consommer au niveau de la clim. Et je trouve qu'il y a un argument massu qui est encore beaucoup trop peu utilisé, c'est qu'un volet, ça ne tombe pas en panne. Une clim, c'est le cas. On a eu des cas, là, y compris avec des technologies très bas carbone, qui ne posent pas de problème de rejet dans l'air, etc. Parce que quand on dit la clim, en fait, il y a plein de technologies différentes. Mais en fait, elles ont toutes une limite de fonctionnement en température. Et donc là, si on commence à entrer là-dedans, on va être dans une course à l'équipement et on ne sera pas préparé le jour où elle tombe en panne.
Yamina Saheb, vous disiez pendant le lancement du magnéto, du montage, pardon, que c'est l'extrême droite qui donne le là.
Oui, la question de la clim, quand vous remontez, c'était il y a 2 ans, qui l'a amené dans le débat, c'est l'extrême droite. Et en fait, tout le monde est tombé dans le piège, c'est l'extrême droite qui donne le là. Et après, on ne discute que de ce que l'extrême droite propose comme solution. Et après, vous êtes pour ou contre. Et c'est ça qui ne va pas. Ça, c'est l'échec des médias, des politiques, de tout le monde, de tous les acteurs. Mais sur la question de la clim, donc ça se produit pour la clim, mais ça se produit pour toutes les autres questions. Si vous regardez, quelle que soit la question politique, parce que c'est une question politique, la crise écologique est une question politique. C'est traité sous l'angle décidé par l'extrême droite. Et là, les autres, ils viennent s'engouffrer et c'est comme ça qu'ils se chamaillent. Mais j'aimerais revenir sur la climatisation et en particulier la climatisation dans le rapport du GIEC. La climatisation dans le rapport du GIEC a été traitée dans le chapitre 9 où j'étais. Donc François Gémen n'était pas dans le chapitre 9 du groupe 3. Lui, il était dans le groupe 2. Et je ne le connais pas pour son expertise sur la climatisation. Enfin, il n'est pas connu pour ça dans notre milieu. Enfin, dans les médias français, il est connu pour tout type d'expertise sur les questions climat. Mais dans notre milieu, personne n'irait le demander à François Gémen son avis sur la climatisation. Et comment est-ce qu'on a traité la question de la climatisation dans le chapitre 9 on a alerté que c'était, et je me souviens même du sous-titre, c'était les consommations émergentes. Et donc, il faut faire attention. Et on avait deux. On avait, pour la climatisation, on avait réussi à faire ça grâce aux données de l'Agence nationale de l'énergie et les data centers. C'était les deux choses d'alerte qui ressortaient de notre chapitre. Et le GIEC n'a jamais dit pour ou contre la climatisation, contrairement à ce que dit le journaliste. Le GIEC dit juste, nous, on fait juste un état des lieux et on dit, bon, ben voilà, ça, c'est en train d'augmenter. Et avec l'accélération des impacts du changement climatique, ça va encore augmenter. Et on a repris les projections pour 2020. 2050 qui sont des projections alarmantes. Alors pourquoi c'est alarmant? Parce qu'il y a deux choses dans la question, il y a trois choses. D'un point de vue technique, d'un point de vue consommation ou impact environnemental, il y a la consommation en électricité et puis il y a aussi les fluides frigorigènes. Alors l'électricité, quand j'entends dire que l'électricité chez nous est décarbonée, donc il n'y a pas de problème, alors quand on est en plein canicule, on ferme les réacteurs et on passe à de la production avec des énergies fossiles, avec du gaz, de l'électricité. Et donc ça, il y a ça. Et puis après, si tout le monde s'équipait de climatiseurs, comme ils le disent, ben le réseau ne va pas tenir. Il suffit de regarder les scénarios qu'avait fait en 2021-2022 réseau de transport RTE, réseau de transport d'électricité. Ça ne peut pas tenir. Le réseau ne va pas tenir. Donc c'est l'ensemble du réseau qui va s'écrouler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant les fluides frigorigènes. Alors contrairement à ce que raconte mon collègue François Gémène, mon ex-collègue, le règlement européen sur les gaz, les fluides frigorigènes, il n'est pas rentré en œuvre en 2024, il a été adopté en 2024. Pour un phase-out, plutôt un phase-down, c'est dans le cadre de la mise en conformité des
obligations. C'est-à-dire quoi un phase-down ?
Un phase-down, donc un processus qui permettra d'éliminer au fil du temps les... Et je l'ai dit à Gémène l'autre jour, je l'ai croisé sur un autre plateau, je lui ai dit ça rentrera en application en 2027. Et lui, il dit, continue de dire, ben non, c'est déjà fait, merci l'Europe. Non, on a adopté le texte. Et on finira, pour les petites clims qu'on utilise à la maison, individuelles, on finira le phase-down, on finira de s'en débarrasser en 2030. Mais ça, c'est pour tous les appareils qu'on achètera, qui seront mis sur le marché européen à partir de 2027. Un appareil de climatisation, moi je fais un cours sur le dimensionnement des climatiseurs aux mines de Paris chaque année avec mes étudiants, ben, on considère que la durée de vie d'un appareil de climatisation domestique est de 10 ans. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train d'acheter là ne sera pas du tout impacté par ce règlement-là européen. Donc il faut quand même cesser de dire n'importe quoi au sujet des règlements. Le troisième aspect qu'il y a dans la climatisation et qui nous intéresse beaucoup, c'est la question de justice. Question de justice, la question de santé, etc. Alors, moi, ça me choque parce qu'en fait, ceux qui peuvent s'acheter des climatiseurs, je suis désolée de le dire, ce ne sont pas les classes défavorisées. Les classes défavorisées, chez nous, qui souffrent de ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui est l'incapacité à payer les factures d'électricité, eh bien ceux-là, la loi les autorise les fournisseurs d'énergie à réduire leur puissance. Et donc, la puissance à laquelle ils ont droit, c'est un petit frigo, et si je ne me trompe pas, deux ampoules. Ils ne pourront pas brancher un climatiseur, ces gens-là. Donc, à supposer que quelqu'un leur offre le climatiseur, d'abord, ils ne pourront pas se l'acheter, en fait, un climatiseur. Si jamais ils décidaient de se l'acheter, ils ne pourront pas s'acheter un climatiseur performant, sachant que le règlement européen pour élever les performances n'a pas été revu depuis 2014, ce qui veut dire que les machines qui sont vendues chez nous, c'était déjà le cas. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'organisais des campagnes de tests d'essai des climatiseurs pour l'Europe, et nos appareils étaient de loin moins performants que les appareils japonais, et ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui c'est pire, sachant que quand l'Union européenne a réglementé ça, le règlement européen n'a pas été revu depuis 2014. Donc en fait, bonnet d'âne pour l'Europe, bonnet d'âne pour nous Européens. Et donc du coup, si moi je suis smicard, et probablement que je suis en situation de précarité énergétique, et donc à supposer que je suffoque, je vais aller acheter un climatiseur, je vais acheter le moins performant possible parce que c'est tout ce que je peux me permettre. Mais après, si je suis en situation de précarité énergétique, j'aurai à choisir entre le frigo où je mets le lait de mon fils ou alors le climatiseur pour me rafraîchir. Et donc, la question sociale, la question de la climatisation, elle va juste augmenter les inégalités. Et du coup, quand ils viennent, ils disent « moi, je viens pour la question sociale, etc. », mais c'est un mensonge incroyable. Enfin, c'est une non-connaissance et un mensonge juste incroyable.
Juste la question sociale. J'aimerais qu'on regarde une séquence, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, c'est sur le plateau de Quotidien. On est mercredi 24 juin 2026, en plein cœur de la crise caniculaire des derniers jours. Et le présentateur vedette Yann Barthès tente de nous expliquer que tout le monde souffre de la chaleur, y compris Bernard Arnault, qu'on est tous donc à égalité face à la canicule, avant de se moquer des personnes qui vivent sous les toits. Regardez.
Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, dans le... Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a...
Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus, j'habite sous les toits, donc...
Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise.
J'habite au troisième étage, sous les toits.
Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout.
Vous en avez fait quoi, cette séquence? Vous en avez fait quelque chose?
On a fait une réponse sur Bon Pote hier pour préciser que déjà c'est complètement indécent de comparer Bernard Arnault qui a un yacht de 150 mètres et une personne qui vit sous les toits. Je ne comprends même pas qu'il puisse faire ça même sur le Mour. Bon là c'est pas drôle. Et en l'occurrence, ce qu'il aurait dû faire, c'est de rappeler que la surmortalité sous les toits, c'est x4. Donc ça ne concerne pas Bernard Arnault qui doit être dans son yacht climatisé. En revanche, ça concerne des gens qui sont en train de mourir au moment où on parle. Il y a plusieurs morts par jour à Paris et partout en France. Donc c'est d'une indécence totale. Vraiment, j'ai pas les mots, mais c'est à l'image de toute façon de quotidien. J'ai par curiosité, le lendemain, une personne que je connais a regardé l'émission. Je me suis dit, il va se rattraper, il va s'excuser, il va expliquer, etc. Non. Première minute de l'émission, il a dit, on a chaud. Tout le monde a chaud. Voilà. D'un ton hautain, genre, je m'en fous de la polémique.
Est-ce que ça a du sens, Alexandre Florentin, de dire qu'on est tous à égalité face à la chaleur?
Alors en fait, il faut un peu déconstruire donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Thomas. Il y a quand même un facteur qui n'est pas complètement faux dans ce qu'il vient de dire, qui est que au-delà des ultra riches, on est tous exposés à la chaleur. Quand vous regardez des cartes, par exemple sur Paris, sur la température dans les rues, par exemple le 9e arrondissement, qui est plutôt un arrondissement riche. Il n'y a pas plus de végétalisation dans le 9e arrondissement que dans le 20e. Il y a des températures qui sont très élevées en fait, dans ces deux arrondissements qui n'ont pas du tout la même sociologie.
Sauf que habitants riches du 9e arrondissement ont peut-être des résidences secondaires vers lesquelles ils vont pouvoir fuir.
Alors soit ça, soit ils ont des amis qui ont des résidences secondaires, soit par exemple, j'ai vu ça ce matin avant de venir ici, vous avez Google a des locaux dans le 9e arrondissement, ils ont accueilli des enfants dans le 9e. Bon, bah, Google n'a pas de locaux, à ma connaissance, dans le 20e arrondissement ou en Seine-Saint-Denis. Donc, en fait, c'est là où il y a une inégalité et tout ce que tu as dit aussi précédemment sur à l'achat, à l'usage de la clim, le fait d'avoir des réseaux qui peuvent vous héberger, qui peuvent vous aider, etc., etc. On n'est pas du tout avec, disons que oui, à peu près tout le monde a chaud, avec un petit astérisque, sauf des ultra-riches à ma connaissance. Hein. Mais par contre, la liste des options que vous avez pour faire face à cette chaleur-là, elle n'a pas du tout la même taille. Voilà. Elle est très 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 courte quand vous êtes pauvre et quand vous êtes dans la classe moyenne, classe élevée, vous avez un catalogue de solutions à votre qui est là. Donc c'est là où c'est très... il aurait dû s'arrêter très très vite dans son discours. Et c'est indécent, c'est là où c'est devenu indécent, parce qu'en fait, les gens souffrent. Nous, on a monté un collectif du dernier étage grâce à la fois à cette intervention-là et à un article du Monde qui, au contraire, montrait toute l'étendue des dégâts du dernier étage avec des personnes de sociologie différentes. Voilà, les gens viennent nous faire des témoignages hallucinants. Il y a des gens qui ne peuvent plus habiter chez eux.
Je voudrais juste rajouter un point que je n'ai pas du tout entendu dans les médias en France. C'est que les appareils de climatisation qui sont vendus en France et en Europe, ils sont testés, c'est la norme européenne qui dit ça, ils sont testés pour 35 degrés de température extérieure. Donc ils sont à leur performance maximale à 35 degrés. Et j'entends souvent là, des collègues qui sont dans les bureaux et disent « la clim ne fonctionne pas ». Mais en fait, la clim qui est installée en France, elle n'est pas designée pour fonctionner au-delà de 35 degrés. Donc elle continue de fonctionner, ça consomme de l'énergie sans produire le froid dont on a besoin. Et ça, c'est un point très important.
Ça s'arrête à un moment.
Comment ? Et ça s'arrête, bien sûr, ça va s'arrêter. Je me souviens en 2003, quand il y avait eu la canicule de 2003, parce que moi j'ai fait ma thèse là-dessus, en fait. Et donc j'étais dans un train, et la personne là, du train, elle venait pour dire « on va faire redémarrer la clim ». Sauf que c'est impossible de faire redémarrer la clim au-delà d'une certaine température. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de système de clim qui fonctionne au-delà de 35, mais la norme européenne, elle est designée pour 35. Donc du coup, ça augmente les émissions, etc., mais sans produire d'effet. Et ça, c'est quand même un point très important. Et pour changer ça, il faudrait revenir à... On aurait dû changer le règlement européen sur les performances énergétiques des climatiseurs en 2014, tenez-vous bien. Depuis 2014, on a des appareils qui sont hors jeu, enfin, qui sont à côté de la plaque, point de vue performance, lorsqu'on compare au marché mondial de la clim. Donc, ce n'est pas tout de dire on va acheter de la clim. La clim, là, qui se vend aujourd'hui, c'est la pire des clims dans les pays de l'OCDE.
Vous disiez tout à l'heure, il faut politiser la question du réchauffement climatique. C'est un peu votre ligne, enfin, c'est pas un peu, c'est votre ligne éditoriale à Bon Pote, puisque vous l'avez écrit, il faut politiser la canicule. C'est ce que vous avez écrit déjà dès mai dernier. On va peut-être le voir à l'écran avec un de vos articles. Voilà, il faut politiser les canicules, 30 mai 2026. Et Libération, à la faveur donc, de cette dernière canicule, a fait exactement la même une. Il faut politiser la canicule. C'est le lundi 22 juin, la une du lundi 22 juin. Pourquoi c'est important de le formuler de cette manière-là, Thomas Wagner?
C'est important parce que on vient encore de passer, là c'est un exemple, mais je sais pas, 15-20 minutes, et les bêtises de François Gémen, il dit ça en une minute. Il a fallu 10 minutes à Yamina pour expliquer pourquoi les nuances, enfin pourquoi c'est faux, pourquoi c'est des raccourcis. Donc encore une fois, pendant qu'on est en train de parler de ça, on ne parle pas des autres sujets, c'est ce que Yamina et Alexandre ont très bien souligné. On n'est pas en train de parler des votes à l'Assemblée nationale, donc ça c'est le premier point. On sait aujourd'hui, ma collègue Sophie Cloedi a analysé tous les votes à l'Assemblée nationale sur la consommation des énergies fossiles. Et il s'avère que le Rassemblement national vote à 78% pour le maintien de la consommation des énergies fossiles. Donc quand eux parlent de souveraineté énergétique, parce que c'est ça le sujet, en fait, ils favorisent, par essence, ils favorisent Trump, puisque c'est les États-Unis le premier. On importe massivement nos énergies fossiles des États-Unis. Ils favorisent Poutine, etc. Donc c'est ça qui devrait être rappelé en permanence. Les votes à l'Assemblée nationale, donc c'est pour ça qu'il faut politiser la canicule, ça ne vient pas de nulle part. Ce sont des votes, il y a des acteurs qui pratiquent l'obstruction climatique, donc ils font en sorte que la transition climatique n'arrive pas. Et c'est de ça dont on devrait discuter dans les débats sur les plateaux, etc. Et je ne le vois pas. Et je suis en train de le crier depuis des années. J'ai fini par écrire un article le 31 mai, c'est ça, ou le 30 mai.
Oui, tout à fait.
Et je suis extrêmement ravi de voir cette une qui a été très puissante parce que l'interview de Christophe Cassoud, le climatologue, a été reprise. Ils ont décidé d'en faire une une. C'est génial parce qu'elle a beaucoup été partagée. L'Obs, cette semaine, mercredi ou jeudi, a aussi dit qu'il faut politiser ou parler de la politique parce qu'elle est politique, cette canicule. Et il y a même eu un petit miracle sur les réseaux sociaux. Hugo Décrypte a dit qu'il fallait que la canicule était politique. Bon, là, ça veut dire que le message commence à passer et on arrête de parler du constat. Il fait chaud, tout le monde a chaud, on est d'accord. Maintenant, on parle des responsables. J'ai parlé là des votes à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres responsables. Patrick Pouyanné, qui a été interviewé absolument nullement par un journaliste de Quotidien.
Donc le patron
de Total. Faut aller chercher les exportateurs d'énergie fossile. Il faut aller chercher le gouvernement qui est responsable, on l'a déjà rappelé. Et il faut rappeler aussi l'irresponsabilité des médias qui mettent un mauvais cadre et qui en plus invitent des gens qui racontent n'importe quoi. Il faut vraiment commencer à s'attaquer à l'obstruction climatique. Et cette obstruction climatique sera dans le prochain rapport du GIEC. Elle ne l'était pas dans le sixième rapport. Je l'ai scruté suffisamment pour le savoir. En revanche, ça va être dans le prochain rapport. Donc, c'est un vrai sujet.
Qui sera publié?
En fait, à cause des États-Unis, c'est en train d'être retardé. Donc, ce sera probablement pas 2027, 2028.
Non. En fait, il y a une question sur le prochain rapport du GIEC. Ils n'ont toujours pas, ils ne se sont pas mis d'accord sur la date parce que les pays riches veulent que ça soit publié en 2027 parce que normalement, le rapport du GIEC, il est utilisé pour faire le stock take, où est-ce qu'on est point de vue émission, pour la COP. Et ça a été le cas la dernière fois parce que ça a matché bien. Mais en fait, cette fois-ci, ça ne matche pas bien parce que le stock take, normalement, c'est pour 2028 et le rapport du GIEC, non, il est prévu plutôt 2030, le rapport de synthèse. Donc, les pays du Nord mettent la pression pour faire avancer la publication. Les pays du Sud refusent, mais derrière, il y a quand même une pensée très, très colonialiste dans toute cette affaire-là. Et donc, les pays du Sud refusent ça parce qu'ils disent... parce qu'en fait, dans les pays du Nord, en France, par exemple, on a le point focal GIEC, c'est plusieurs personnes qui lisent le rapport et puis ils peuvent mobiliser les scientifiques, on a les moyens. Et dans les pays du Sud, c'est en général, vous allez trouver une seule personne qui va faire toutes les réunions climat internationales, qui doit lire, etc. Donc, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens humains. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est aussi réel, c'est que quand on parle de la communauté scientifique, etc., en particulier de la communauté climat, donc on pense qu'on est tous très solidaires et tout, mais ça, c'est pas vrai du tout, en fait. La communauté climat internationale, là, c'est que les pays de l'OCDE, et en général, c'est que des mâles, donc des mâles M-A-L-E,
oui, oui,
voilà, c'est dominé par les hommes blancs, etc. Et donc, et pour faire passer, le GIEC étant basé sur des publications scientifiques, donc ces mâles blancs, ils dominent aussi toutes les les revues, pratiquement toutes les revues scientifiques. Et donc, pour faire passer un article, quand vous êtes du Sud, si vous signez, je ne sais pas, Mohamed de l'université, je vais dire du Caire ou je ne sais pas quoi, bah, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés que si vous signez Mohamed de l'ENS. Vous avez déjà une chance, parce que ENS.fr, c'est connu. Et vous allez avoir à côté de vous une autre... et en plus, ça va être encore plus simple si vous vous appelez Robert de l'ENS. Ça compense quand même. C'est sûrement un scientifique, oui, Robert de l'ENS.
Mais nous, on a voulu inviter Yamina Saheb ici à un voilà. Question pour vous, Alexandre Florentin, et ce sera la dernière, parce qu'on a tous très chaud, je crois, sur ce plateau-là. On a parlé des médias, on a parlé des politiques, notamment le gouvernement, on a parlé des scientifiques, mais quid aussi des collectivités territoriales, des collectivités locales. Vous avez été conseiller à la mairie de Paris jusqu'en 2026, de 2020 à 2026, on l'a dit, et vous avez présidé une mission sur Paris, à 50 degrés, voilà. Et en gros, voilà, on le voit ici. L'idée, c'était de préparer la capitale et ses habitants à une canicule comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Un plan avait même été élaboré que l'on peut retrouver sur le site internet de la ville de Paris et qui a été même l'objet de la une du New York Times en 2025. On va peut-être la voir. Voilà, Paris braces for a future of possibly paralyzing heat. Donc c'était voilà en mai 2025. Et qu'est-ce que dit ce plan? Alors je donne quelques mesures. Assurer à chaque Parisien l'accès à un lieu de fraîcheur à moins de 200 mètres de son domicile, mettre en place un plan d'hébergement d'urgence en cas de grande chaleur à Paris, mettre en œuvre dès 2023 un grand plan de rénovation thermique municipale afin d'assurer la viabilité des bâtiments publics accueillant des publics vulnérables, etc. etc. Il y a vraiment
la première
beaucoup.
Mesure, c'était sur les écoles.
Voilà. Et alors, du coup, on est en 2026, commencé donc en 2022-2023, à Paris, on n'y est pas.
On n'y est pas, mais on n'y est nulle part, hein. Ça, c'est quand même une constante en France.
Mais alors, ça sert à quoi de faire une mission où on va mobiliser énormément de personnes pour pouvoir anticiper quelque chose dont on sait que ça va arriver, si ce n'est pour pas suivre le plan tel qu'il a été mis en place?
Parce que, pour de vrai, ça prend du temps. C'est-à-dire que cette mission-là, elle a été reconnue et elle a eu son utilité. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a eu un énorme écho dans les médias, elle a eu un écho auprès de la classe politique parisienne qui s'est saisie de ce sujet. Et ça, c'est pas très visible du grand public, mais quand vous avez la maire de Paris qui déjà parlait beaucoup de transition écologique et à partir de là, se mettait systématiquement à parler des canicules. En fait, dans l'administration, où vous avez toujours, ça c'est propre à n'importe quelle grande organisation, vous avez des contradictions au moment des arbitrages de projets. Bon, bah, moi j'ai eu des échos que les questions d'adaptation avaient pris plus de poids pour arbitrer des projets. Ensuite, tout ce qui a été mis dans le rapport, et ça s'est transformé dans les plans climat, dans le plan local d'urbanisme, etc. Après, c'est des questions de timing de la mise en œuvre. Quelles sont les priorités? Cette mission, elle était là un an avant les Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai pris des positions assez fortes alors que j'étais dans la majorité pour dire, en fait, vous ne pouvez pas nous dire qu'avec les Jeux Olympiques, on est en train d'accélérer la préparation aux vagues de chaleur. C'est faux. Bon, il y a plein de choses qui étaient très bien. C'est pour ça que j'étais dans la majorité. J'ai voté la plupart des textes de la majorité. Mais par contre, je trouvais qu'il y avait un décalage entre ce que les scientifiques me disaient, le niveau d'alerte, le fait que si demain, à plus 1,5, on a un extrême, en fait, c'est ce genre de canicule qu'on a en ce moment. Et c'est ça que la classe politique, elle n'a pas encore bien comprise. Et puis après, bon bah, c'est le jeu politique. Moi, j'ai fait exclusivement ma campagne, parce que je me suis représenté, j'ai fait exclusivement ma campagne sur les questions d'adaptation au changement climatique. Sauf que c'était une campagne en hiver.
Il faut aller la faire pendant la canicule. Il faut la prévoir pour la canicule.
Juste pour rebondir sur ce que dit Alexandre, déjà, il a fait un truc bien pour quand il a fait ce dossier, c'est que c'était transpartisan. Donc, il n'y avait pas que des Verts ou des écolos. Il y avait aussi, je crois, une macroniste, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, quelqu'un plein, plutôt du centre.
Horizon aussi, je crois, non?
Il y avait une quinzaine d'élus. Mmh. Et donc, vous avez tout le spectre politique, sauf RN et LFI,
ça,
pour des raisons.
C'est pas mal. Mais en fait, à quoi servent ces rapports et à quoi sert le rapport du GIEC? Le rapport du GIEC n'est pas prescriptif. Les scientifiques ne sont pas là pour vous dire quoi faire. En revanche, il est mis à disposition au gouvernement du monde entier et à tous les politiques. Et vous avez une palette de solutions. Il y a le constat et des solutions possibles, avec les risques en face, etc. Donc, l'intérêt de ces rapports-là, c'est de dire, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, comme le dit, qui aurait pu prédire, etc. C'est du bullshit complet, parce que son pays...
On le dit tout le temps, il y a 10 millions de rapports, et à chaque fois, on dit exactement la même chose.
Bien sûr, et donc l'intérêt, ça évolue quand même, mais l'intérêt de ces rapports, c'est de le mettre, et c'est ce que devraient faire les journalistes, pour dire, maintenant qu'il y a ça, demander à chaque politique, mais de gauche comme de droite, c'est quoi vos solutions en face et vos solutions crédibles. Et quand elles ne sont pas crédibles, parce qu'ils devraient être formés sur ces questions, reprendre le politique et lui dire, quand il raconte n'importe quoi, dire « Ok, ça, c'est n'importe quoi ».
Dernier mot pour vous, Yamina Saïd.
Alors, moi, je fais partie des gens qui produisent ce type de rapport auquel on fait référence tout le temps. Mais je ne pense pas que ce soit avec ce genre de rapport qu'on fera bouger le politique. Je pense que la seule façon de faire bouger le politique, c'est une mobilisation citoyenne très forte. Et je crois que la canicule, enfin, j'espère que la canicule est l'opportunité qu'on n'a pas eue depuis longtemps pour qu'on se bouge tous ensemble. Et c'est uniquement avec la pression par les citoyens que les politiques se bougeront. Ce n'est pas un autre rapport du GIEC qui va faire bouger les politiques, quel que soit le pays.
Bon, oui, elle a raison.
C'est ce qu'on organise avec Demain 50 degrés.
La semaine prochaine, ça devrait bouger un peu dans la rue. Hein. Les gens sont très énervés sur les réseaux, sont exaspérés.
Oui, parce que c'est les vacances.
C'est les vacances, ça tombe mal. Voilà.
C'est en train de monter. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a un traitement du gouvernement qui compare les activistes climat à des éco-terroristes. Hein. Ça s'est passé à la 69, on l'a rappelé. En fait, on s'est fait gazer, des scientifiques se sont fait gazer, des familles, on est en train de discuter légalement et la police est arrivée et a gazé tout le monde. Donc il faut quand même le rappeler voilà, il y a une criminalisation des activistes.
Oui, c'est pas ces rapports-là qui vont faire bouger les choses. C'est vraiment les citoyens. Oui, il faut qu'on se réapproprie notre citoyenneté. Pour le moment, nous sommes juste des consommateurs de tout, y compris des médias. Et c'est ça qui ne va pas. Et en fait, avant d'être un consommateur de quoi que ce soit, on est d'abord citoyen. Et nous avons la chance d'être encore dans des démocraties, même si elles sont malades. Et dans les démocraties, on peut se mobiliser. Les risques sont quand même moindres que dans les dictatures. Et donc il faut qu'on se mobilise parce que là, ce qu'on vit, ce dont il est question en vérité, j'arrête pas de le dire, ce dont il est question, c'est allons-nous être des ancêtres ? Et si vous voulez être un ancêtre, si vous avez des enfants, que vous voulez que vos enfants atteignent un jour votre âge et deviennent vieux, etc., ben c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Demain, ça sera trop tard.
Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour nous aider à comprendre le traitement médiatique de la canicule. J'imagine qu'on aura d'autres émissions de ce type, malheureusement, dans les prochains mois, prochaines semaines. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.